au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Turin, de Stendhal à la francophonie. Le train qui nous emmène de Bologne à Turin fonce sous la pluie, tandis que la vie s'anime dans le compartiment. Nous prêtons l'oreille aux propos de nos voisins qui se mettent à parler de mode. Nous les écoutons tout en faisant semblant d'être captivés par la lecture des journaux. Ils citent d'abord Ungaro et tout de suite après Chanel. N'oublions pas un livre très intéressant de Paul Morand qui s'intitule « L'allure de Chanel », édition Hermann, 1976. La femme qui se trouve assise à notre droite s'exclame avec conviction « Un tailleur Chanel, on le garde toute sa vie ». Elle trouve en effet Yves Saint-Laurent moins bien que Chanel, maison qui est visiblement pour elle le chic du chic français. Bref, le débat sur la mode, surtout française, auquel on ne s'attendait point en un tel lieu, ensoleille soudain le compartiment et le ciel noir balafré d'éclairs. Fort intéressés par l'art de vivre à la française, sujet inépuisable, nous ne résistons pas davantage à nous mêler à la conversation. Il nous est bien agréable de constater que la plupart des passagers comprennent ou parlent la langue de Stendhal. La seule dame du groupe la manie même avec brio, c'est qu'elle vit dans la vallée d'Aoste, au lieu de la résistance du français en Italie. Faut préciser qu'elle a tenu à apprendre notre idiome, bien que ses ancêtres ne soient point originaires de la douce France. Quand nous entendons dire fréquemment ici et là que l'on assiste à un écroulement du français en Italie, à qui la faute? Refuser de s'intéresser au peuple si entreprenant qui est le plus proche de nous, n'est-ce point une erreur grave? Une fois rendu à Turin, à l'hôtel Victoria, la réceptionniste nous accueille volontiers en prononçant quelques mots fort aimables. Dans le salon, le journal Le Monde se trouve bien en vue. Il est vrai que Turin, berceau du cinéma italien, s'avère géographiquement plus proche de la France que cette chère ville de Bologne d'où nous venons, pourtant, précisons-le, grande capitale universitaire, mais trop négligée, hélas, par nos collègues. Nous profitons des 2 heures de liberté que nous avons devant nous pour déambuler dans les rues, fort attrayantes de cette belle ville. Éblouis, nous le sommes par le style luxuriant de la capitale du Piémont qui fut, on s'en souvient peut-être, annexée à la France par Napoléon Ier de 1801 à 1814. N'est-ce point Charles-Emmanuel III, duc de Savoie et roi de Sardaigne de 1730 à 1773, qui fit de cette cité le plus beau village du monde? Si nous en croyons certains propos de M. de Montesquieu, c'est dans cette ville policée, traversée par la très achalandée Via Roma, laquelle abrite sous ses arcades protectrices de luxueuses boutiques, que nous avons rendez-vous avec un francophile italien parmi les plus réputés. Sergio Zoppi, professeur titulaire de langue et de littérature française, nous attend dans son vaste bureau de l'université. C'est une sommité. La soixantaine, grand, fort, énergique, cet homme pétri de style et dont le visage s'avère couronné par une chevelure blanche impeccablement soignée, ressemble à celui d'Yves Montand. Son physique d'acteur ne détonne en rien. Bien au contraire, dans une cité qui possède un musée du cinéma plus que fameux, lequel est niché dans la fameuse tour Molle Antonelliana, qui fut érigée en 1863 par la dynamique communauté israélite. Tous les grands cinéastes ont au moins tourné un film à Turin, que ce soit Antonioni, Fellini, Rizzi ou encore Rossellini. C'est dans cette ville, véritable miroir du cinéma, Je pense à un livre de Vincent Pinel qui s'intitule « Le siècle du cinéma, Bordas 1994 ». Donc c'est dans cette ville, véritable miroir du cinéma, capitale du cinéma italien jusqu'en 1920, que le monumental Cabiria de Giovanni Pastrone fut créé. Il faut savoir que ce chef-d'œuvre a été écrit par nul autre que Gabriele D'Annunzio, écrivain connu pour son culte exacerbé de l'héroïsme. Aujourd'hui, le musée possède une superbe collection d'environ 650 appareils de projection, boîtes optiques et lanternes magiques, dont la qualité paraît-il unique. Il renferme également une intéressante collection d'affiches. Nous sommes vraiment heureux de nous entretenir avec Sergio Zoppi, esprit bouillant, voltairien, qui nous décrit non sans une certaine coquetterie sa passion pour la France et pour la langue française. Il ne cache pas qu'enfant, lui qui parlait le piémontais, la langue du cru, rêvait de cette France si proche, alors tellement parée de prestige, aussi naturellement l'étudiant qu'il était dans les années 50, a-t-il choisi de se spécialiser dans la vaste littérature du XVIIIe siècle et a en particulier découvert l'œuvre de Pierre-Louis Ginguené, le premier auteur français à avoir eu l'idée d'écrire une histoire littéraire de l'Italie, se démarquant de la sacro-sainte histoire traditionnelle. Ginguené apparaît en effet comme un auteur moderne, un véritable précurseur de ce que l'on connaît sous le nom de littérature nationale. D'autres œuvres littéraires appartenant au XXe siècle continuent également de retenir l'attention du professeur Zoppi. Parmi elles, il apprécie au plus haut point le créatif Guillaume Apollinaire. On ne dira jamais assez l'influence qu'Apollinaire a eue sur bon nombre d'auteurs francophiles et francophones. N'oublions pas Apollinaire, ce merveilleux livre qui s'intitule « Alcool, poésie Gallimard 1970 ». Donc, l'influence d'Apollinaire sur les auteurs francophiles et francophones, ou par exemple sur un poète aussi important que Gaston Miron. Et Gaston Miron, nous avons écrit un livre qui s'intitule donc Axel Maugé, Gaston Miron, une passion québécoise, Humanitas 1999. Outre le génial rêveur casqué, nous avons nommé là Apollinaire, belle image symbolisant Apollinaire, cet érudit apprécie vivement Aragon, Éluard, Prévert et n'oublie jamais d'évoquer l'une de ses dernières passions, celle qu'il éprouve pour Jean Tardieu, poète si sympathique dont il a traduit l'œuvre. Nul doute que Sergio Zoppi s'affirme en permanence comme un homme de rencontres, d'échanges, d'ouvertures, de projets et de réalisations multiples. Au fil des années, il a entre autres organisé une série de colloques internationaux sur Tardieu, Perret, Cocteau, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, pour ne citer que. Pour quelle raison, un jour, ce passionné de littérature française s'est-il soudain intéressé aux littératures de la francophonie ? Tout simplement parce qu'il s'est rendu compte, non sans inquiétude, voire tristesse, que l'influence culturelle de la France commençait à décliner à la fin des années 70. Elle subissait en effet le contre-coup du matraquage de la propagande anglo-saxonne. Constatant que certains essayaient de réagir en favorisant l'essor de la francophonie, l'universitaire italien a trouvé non seulement ce combat original, mais nécessaire pour contrer la déferlante américaine visant à uniformiser les cultures. Et comme les services culturels de l'ambassade du Canada étaient particulièrement actifs à la fin des années 70, le responsable de l'époque lui a promis une aide financière à condition qu'il mette sur pied une équipe et un réseau interuniversitaire spécialisé dans le domaine de la francophonie. Aussi a-t-il décidé de créer l'Association italienne des études canadiennes dès l'année 1980, ce qui lui a permis d'organiser un premier congrès à Urbino en 1981. Lors de cette rencontre, Sergio Zoppi a fait la connaissance de l'étonnant Gaston Miron, auteur, on le sait, de L'homme rapaillé dans la collection Poésie Gallimard, publiée en 1998, qui est devenu son ami, si bien qu'au fil des années 80, plusieurs poètes québécois de talent sont venus parler de leurs œuvres à Turin, Miron bien sûr, mais aussi Roland Giguère, Ferdinand Ouellette, Paul-Marie Lapointe, Gilles Hénaud et Michel Van Chandel. Lire sur ces poètes, Axel Maugé, La poésie moderne québécoise, Les presses d'Université Laval, 1972, première édition, et deuxième édition, Les éditions Humanitas, 1989. Conforté le vif intérêt suscité par ces rencontres et ces récitals, l'universitaire turinois a eu alors l'idée de fonder une collection qu'il a intitulée « Del mondo intero ». Et ce, afin de publier non seulement des poètes incontournables au Québec, par exemple Nelly Gant, mais encore certains de ses auteurs fétiches, tels Apollinaire, Spinuzzi, un Australien, Margaret Atwood, une Canadienne anglaise, et le Français Jean-Claude Renard. Sergio Zoppi n'hésite point à porter un jugement de connaisseur sur la littérature québécoise. Dans l'ensemble, il la trouve très vivante, mais trop subventionnée à son goût. Si bien que la quantité des publications masque parfois la qualité de certaines d'entre elles. Il faut en effet avoir du temps pour trier les volumes que l'on reçoit et sortir de l'ombre ce qui en vaut la peine. Cela l'amène à confier qu'il a le sentiment que bon nombre d'auteurs du Québec lui semblent plus proches de ce fond classique que par exemple les auteurs des États-Unis qui, d'après lui, se sont souvent détournés de cet univers pourtant essentiel. En écoutant cet humaniste parler, réfléchir, corriger sa pensée, nous ne pouvons nous empêcher de songer un instant à un homme de culture comme Victor Barbeau, un Québécois, qui est hélas aujourd'hui si peu connu dans son pays. Nul n'est en effet prophète chez soi. Outre le Québec-Canada, l'Afrique francophone l'a également passionné. Pendant une bonne vingtaine d'années et jusqu'à aujourd'hui, il ne cache pas qu'il a été une sorte d'agent, d'animateur, au service des auteurs africains qui, selon lui, le méritent. D'emblée, la poésie somptueuse, à la fois claudélienne et pleine de rythmes africains de Léopold Sédar Senghor, il faut lire de M. Saravaya, Langage et poésie chez Senghor, aux éditions de l'Harmattan, publié en 1989. Senghor, personnage pétri de tradition classique, l'a comblé. Il se considère très proche du grand poète sénégalais parce qu'il a les mêmes racines culturelles que lui. Comme lui, il appartient à l'univers des latinistes et des spécialistes des lettres classiques. L'Afrique continue de l'attirer et de le fasciner à cause d'un fond culturel qui est si différent du nôtre. Il n'hésite pas à reconnaître qu'il se régale en lisant l'œuvre d'un Bernard Dadier, lequel ne cache rien de son admiration pour Voltaire. Il faut lire son Nègre à Paris, donc Liliane Castello, l'auteur de très bonne qualité, Liliane Castello, qui a écrit Les écrivains noirs de langue française, Naissance d'une littérature aux éditions ULB Bruxelles 1965. C'est un livre ancien mais très important qui, bien entendu, analyse tous ces auteurs pour comprendre certaines facettes de la francophonie, univers si complexe et si méconnu. Dans ce récit enlevé, Dadier juge avec beaucoup d'originalité cette France occidentale sans pour autant perdre les éléments constitutifs de sa propre tradition. Comme tous les vrais esprits voltairiens, il réussit à merveille à mettre une distance avec son sujet d'analyse. Selon le professeur Zoppi, l'erreur que commettent beaucoup d'observateurs de la scène africaine consiste à ignorer totalement les réalités de l'anthropologie. Faute de connaître une telle science, l'Afrique reste pour la plupart d'entre eux un continent mystérieux, incompris, oublié. Sergio Zoppi est également fort touché par l'œuvre du Congolais Sonny Labutansi. Aujourd'hui disparu, c'est grâce à lui qu'il a fait la connaissance du grand écrivain du Nigeria, Wole Soyinka, et d'autres encore comme le Congolais Sylvain Bemba ou le Camerounais Francis Bébé. Toutes ces rencontres si amicales lui ont permis d'organiser des réseaux francophones très actifs. Au fil des années, il a eu le bonheur de traduire aussi bien Bemba que Tansi et d'écrire deux postfaces à deux romans connus de l'auteur marocain Tahar Ben Jelloun. Et n'oublions pas de Tahar Ben Jelloun, La nuit fatale et L'enfant du sable. Et puis, chemin faisant, il s'est également intéressé à la littérature tunisienne et à celle de la Côte d'Ivoire. Alors qu'à présent, le temps qui s'est écoulé permet de mieux apprécier l'ampleur du travail accompli, le généreux professeur Zoppi constate qu'il est en ce moment un peu à bout de souffle parce que son équipe francophone s'avère trop réduite. En outre, souligne-t-il, le temps des vaches grasses a hélas disparu. Aussi, pour illustrer, non sans humour, cette période devenue difficile, lâche-t-il cette formule qui en dit long sur sa patience illimitée et son dévouement exceptionnel. « Je suis un grand mendiant à Rome et quand j'obtiens des subsides, je deviens un grand aumônier pour le reste de l'Italie. » Ces propos d'un homme lucide éclairent le cheminement d'un être profondément tourné vers les écrivains et les œuvres littéraires. Nul doute que l'avenir du français, de la francophonie et du dialogue des cultures continue de passionner cet éminent universitaire italien. Même si la situation du français lui apparaît quelque peu critique, il considère que la France commence enfin à réagir avec un peu plus de fermeté depuis 3 ou 4 ans. Mieux vaut tard que jamais. Depuis des années, il entretient d'ailleurs des relations étroites avec des universitaires français tels que Jacques Chevrier, Robert Jouanny et Yannick Reich. Le deuxième, c'est-à-dire Robert Jouanny, a écrit un brillant universitaire, a publié aux presses universitaires de France en l'an 2000 un excellent essai qui s'intitule « Singularité francophone ». Il est persuadé que le principal enjeu se situe, je parle de Sergio Zoppi, alors Sergio Zoppi est persuadé que le principal enjeu se situe au cœur de la relation plurielle entre les francophonies et les identités. Vouloir laisser la francophonie et l'identité au singulier lui apparaît comme une erreur, car cela empêche de multiplier les réseaux originaux. Et comme en ce début du troisième millénaire, l'autoroute de la connaissance s'avère pour le moment solidement encadrée et ficelée par le monde anglo-saxon, les francophonies, grâce à leur dynamique et à leur créativité insoupçonnée, peuvent mieux s'opposer à la montée de l'uniformité à condition qu'elles communiquent au maximum entre elles. Elles offrent en effet de vastes possibilités aux multiples identités qui cherchent à s'exprimer différemment. Dans ce combat francophone mondial, le Québec, à première vue, semble privilégié car il parle sa langue natale et bénéficie de moyens technologiques importants, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays africains, lesquels, en revanche, bénéficient d'une solide évolution démographique. Avec la large ouverture d'esprit et la vaste culture qui le caractérise, le professeur Zoppi comprend que les interrogations que se posent certains Antillais, tels que Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Raphaël Confiant a écrit un livre très, très intéressant, plein d'humour, « Mamselle Libellule au serpent à plumes » en l'an 2000. Lesquels, donc je parle de Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, lesquels sont en vérité soucieux de ne pas voir disparaître le créole et sa luxuriance linguistique, héritage si intime, arraché à l'exil et à d'anciennes souffrances. Même si dans l'absolu, il apparaît difficile de tout intégrer et de tout conserver, il serait ridicule de vouloir uniformiser les francophones, non sans humour et avec un clin d'œil appuyé en direction des créolisants et de leurs défenseurs, Sergio Zoppi convient volontiers que tout voltairien qu'il est, il ne déteste point Rousseau, dont acte. Afin d'illustrer son propos, il se souvient avec un vif amusement d'une de ses rencontres avec le talentueux Édouard Monique, lequel aimait lui répéter cette formule pleine de force « Je prends la langue française et je lui fais des bâtards ». Et le Mauricien d'ajouter toujours provocateur pour le meilleur « Je suis un insulé, mais pas un insulaire ». Visiblement très lucide, notre interlocuteur ajoute que si les francophones et certains locuteurs d'autres espaces linguistiques veulent gagner la bataille de la diversité, il faut qu'ils deviennent très vite encore plus stratégiques, et ce pour mieux organiser de meilleurs réseaux à l'échelle internationale. Par exemple, à partir des années 70, le Québec a évolué dans le bon sens parce qu'il a réussi à s'internationaliser au départ grâce à l'appui de la France. Thank you. Mais à présent, lancé au cœur de la mondialisation, il doit redoubler d'efforts et revoir l'ensemble de sa stratégie, sans oublier pour autant de conforter sa relation privilégiée avec la France. Cet amoureux des lettres françaises confie volontiers qu'il prend également le temps de relire certaines œuvres de ses auteurs italiens préférés parmi tous ceux qu'il aime. Comme il faut choisir, il en retient trois. Pour lui, ce sont des phares. D'abord, l'écrivain turinois Cesare Pavese. Et bien entendu, il faut lire notamment de Pavese avant Le chant du coq, qui a été publié en 1949, que Jean-Paul Sartre estimait. Chaque fois qu'il le relit, Sergio Zoppi retrouve le monde dur du Piémont des années 40 et 50. Un titre lui plaît entre tous, toujours de Pavese, « La lune et les feux de joie ». Vient ensuite l'œuvre d'Alberto Savigno, qui a participé à l'aventure du surréalisme italien. C'est le frère du fameux peintre Giorgio De Chirico. Il a écrit des romans captivants dans lesquels domine le goût du paradoxe, l'humour de l'absurde et l'attrait du fantastique. De celui qui fut un grand ami d'Apollinaire, il apprécie entre autres Hermaphrodite, 1918, Achille Enamouré, 1938, et C'est à toi que je parle, Cléo, 1940. Enfin, notre interlocuteur lâche, visiblement avec un plaisir immense, un dernier nom archi connu et dont l'œuvre est lue par tant de lecteurs italiens, français et étrangers, Stendhal, ou plus précisément Henri Bell, ou encore mieux à la façon turinoise, Arrigo Belle Milanese. Parmi tant d'ouvrages exceptionnels, les chroniques italiennes de 1839 valent pour lui leur pesant d'or. Nul doute qu'en répondant vite, sans hésiter, le professeur Zoppi a laissé parler son cœur. Décidément, nos amis italiens sont des êtres créateurs, lumineux, chaleureux, comme les rayons diffusés par les jeux des lanternes magiques si chères au XVIIIe et XIXe siècle, que le spécialiste français en la matière, la firme Scherzo, a su reproduire sur d'immenses plans au cœur de ce musée du cinéma si cher aux Turinois et aux cinéphiles du monde entier. Le soir venu, cet universitaire plein de panache, qui goûte fort les joies suscitées par la gourmandise, nous invite à dîner au restaurant La Badena, où un décor ludique très religieux crée une atmosphère particulière. À l'entrée, des figurines, ce sont des statuettes de bonnes sœurs miniatures, nous salue derrière le verre de bocaux dont le contenu originel fut jadis apprécié par des amateurs de condiments. Nul doute que l'endroit est épicé, ce qui n'empêche en rien l'ombre de Goya de planer sur cette cave voûtée où nous nous retrouvons à présent assis et où, nous en sommes sûrs, le poète québécois Fernand Ouellet et son ami. Je rappelle que Fernand Ouellet est l'auteur, entre autres, d'un très joli recueil de poèmes qui s'appelle « Le soleil sous la mort », Montréal, l'Hexagone, 1963. Et donc, le poète québécois Fernand Ouellet et son ami, le français Pierre-Jean Jouve, auraient aimé parler autant de psychanalyse que d'érotisme. Les autres invités sont charmants. Ils représentent avec chaleur et dynamisme le Centre culturel français de Turin. Installé juste à côté de nous, l'universitaire Anna Paola Mossetto nous parle avec une véritable passion dans les yeux de Gaston Miron, à qui nous venons justement de consacrer un livre. La soirée se prolonge et maintes fois des noms de francophones émérites fusent, notamment celui de Stelio Farangis, auteur de Francophonie et Humanisme, édition Tougui, 1989, ex-secrétaire général du Haut Conseil de la Francophonie, un personnage original, fervent disciple de Condorcet, qui a déjà beaucoup fait pour favoriser toujours plus le dialogue des cultures et souvent avec moins de moyens que d'autres organismes qui, eux, piétinent, voire régressent parce que ce sont de véritables citadelles féodales métamorphosées en fromage. Au fil des nombreux échanges, d'autres noms de citoyens francophones hybrides sont cités, celui de Jean Etiéblé, un amoureux inconditionnel de l'Italie comme de la Tunisie, ou celui de Jean Martucci, italien de naissance et québécois d'adoption, qui a tant fait pour rapprocher les uns et les autres, et ce jusqu'à sa mort, hélas, trop précoce. C'était à la fois un rêveur et un homme d'action, il nous manque. Tous sont d'accord sur le fait que la faiblesse des Français en général et c'est que ce sont trop souvent des héritiers, ce qui explique qu'ils n'essaient pas assez de remodeler le moule qui les a fascinés. Ce pays réputé si riche pourtant en tradition, en création, en événements et en révolutions de toutes sortes, souffre cependant d'une étatisation excessive. Nul doute que l'abondance rend captif et n'incite pas assez la jeunesse à aller parcourir le monde, mais la crise s'accentuant, la situation est en train d'évoluer. À la suite de ces échanges, une fois de plus, il apparaît clair qu'actuellement, la France manque de bons stratèges dans le domaine de la francophonie. Ses forces vitales doivent retrouver le fil du courant créateur, être canalisé afin d'agir au mieux et d'éviter de tourner en rond. Nul doute que les énergies existent, souvent secrètes et souterraines. Pour aller de l'avant, il suffirait que des responsables crédibles, généreux, dynamiques mobilisent les meilleurs et leur proposent de véritables objectifs. Par exemple, à Turin, pour ne citer que cette ville, que font les entreprises françaises pour accompagner le développement de l'action culturelle? Pas grand-chose, si nous en croyons nos interlocuteurs. Une telle indifférence est-elle acceptable? Se peut-il que le chic français, que le luxe français, la beauté française, installés en leurs donjons, drapés en leurs richesses, continuent d'ignorer les besoins de la langue française et les possibilités offertes par les visages des francophonies? Si l'économie française tourne le dos aux enfants de Voltaire, de Rousseau, de Malraux et de Le Clésio, elle en pâtira tôt ou tard, puisqu'en perdant ses racines culturelles, elle laissera disparaître à jamais une énergie créatrice. Les amoureux du luxe et ceux qui en vivent n'ont pas le droit d'être radins. Ce serait un comble, pire, une erreur et un manque de galanterie. En cette belle fin de soirée turinoise grisée par la respiration de certaines phrases de Stendhal, elles animent nos lèvres. Plus il nous arrive de réfléchir à l'avenir des francophones, plus nous croyons que cette réalité plurielle a besoin de médiateurs. Dans ce rôle, nul doute que les Italiens, ces personnages de théâtre et de dialogue, devraient occuper une place de choix. Parions toujours plus sur les Italiens. Ces chers cousins sont en effet des frères qui ont mille fois raison de ne plus supporter une certaine indifférence d'une partie de nos élites. Omnubilés par les États-Unis souvent puissants de nos faiblesses, ces mêmes élites, lesquelles, dont nous venons de le souligner, fascinées par l'Amérique anglo-saxonne, à l'occasion fort dynamique, il est vrai, ignorent tout, hélas ou presque tout, de l'Amérique française et de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. N'est-ce point d'abord une grave erreur stratégique et ensuite une faute d'esprit, n'en déplaise à M. de Voltaire.